Je suis le responsable du groupement de centrales de Peyrales-Château. Je suis responsable de 18 barrages et de 15 centrales qui sont étendues sur trois départements, donc Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Nous exploitons les centrales qui sont principalement sur la Molde et sur le Thorion, affluent de la rivière Vienne. Donc là, nous sommes sur le site de Bujaleuf. Nous sommes sur la rivière Molde. C'est un barrage central qui fait entre 15 et 20 mètres de haut. C'est une centrale qui a été rénovée courant 2015 et qui se termine début 2016. Centrale quasi complètement rénovée pour repartir pour de longues années en exploitation.
Alors qu'est-ce qui a été rénové et pourquoi ?
C'est un aménagement qui a été mis en eau en 1961, donc il y a eu de la maintenance. Mais maintenant, il fallait remplacer certains matériels qui arrivaient à un degré d'usure, notamment sur l'aspect production. On a remplacé ces matériels, on a fait de la rénovation et de la maintenance bien plus lourde que régulièrement. Donc là, nous sommes on va dire, au cœur du barrage. Nous pouvons voir les cellules où sont installés les groupes de production. Ces aménagements sont équipés de 4 groupes de production avec une puissance unitaire de 800 kW. Chaque cellule a été rénovée. Comme vous pouvez le voir, il y a eu de la remise en peinture, des groupes complètement neufs. Donc là, on est en présence d'un groupe neuf qui a eu un appel d'offres européen. Une entreprise italienne a eu le marché. Ensuite, d'autres groupes qui ont été rénovés dans l'année 2015. Il y a eu, voilà, un gros chantier de peinture, notamment c'était des peintures amiante. Donc il a fallu opérer à respecter la réglementation amiante pour enlever toutes ces peintures et repartir sur des peintures conformes.
C'est composé de quoi un groupe ?
Un groupe de production, on produit l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on utilise la force de l'eau. On est sur un barrage, on a de l'eau qui est stockée, on la retrouve sous pression. Cette eau, on la transforme en énergie mécanique à l'aide d'une turbine. Ici, ce sont des turbines dites Kaplan. Avec cette turbine, donc, on en transforme cette énergie hydraulique en énergie mécanique en mettant un axe en rotation. Et au bout de cet axe, il y a une génératrice ou un alternateur. Et on transforme cette énergie mécanique en énergie électrique. Quand on parle de groupe de production, c'est l'ensemble alternateur-génératrice, donc rotor-stator, et turbine. Et avec le manchon de conduit, l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Donc on est voilà, sur une longueur d'à peu près 5-6 mètres.
Ça produit quoi en électricité en moyenne un groupe à l'année ?
C'est assez variable en fonction de l'hydraulicité. Hein. L'année 2015 a été ponctuée plutôt par une faible hydraulicité. Donc on était plutôt en déficit de production en 2015. Là, on peut remarquer qu'en 2016, notamment à partir de mi-janvier jusqu'au mois de mars, l'hydraulicité a été un peu plus soutenue. Donc évidemment, on a produit un peu plus, mais c'est relativement variable. Le groupement de centrales, pas uniquement sur l'aménagement de Bujaleuf, les 15 centrales produisent en moyenne 330 gigawatt-heure et ça fait un équivalent de consommation de 60 000 habitants par an.
Et est-ce que l'électricité produite à Bujaleuf est consommée dans un rayon proche ou est-ce qu'elle est injectée directement dans le réseau et ce qui est produit à Bujaleuf peut être consommé à Paris ?
L'électricité sort de cette génératrice, elle est remontée en tension et elle est injectée sur le réseau. Comme tous les réseaux, le réseau est interconnecté, cette électricité-là, elle peut être consommée ou localement ou à Paris. On ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est consommée. Elle contribue à maintenir l'équilibre production-consommation. Il y a une règle de base, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Donc lorsque la consommation augmente, il faut absolument que EDF maintienne cet équilibre. Donc il faut qu'ils mettent en place des moyens de production pour maintenir l'équilibre production-consommation. Il faut savoir que sur cette centrale, ça va faire bientôt 10 mois qu'elle a été arrêtée. Donc nous avons décidé de ne pas produire pendant 10 mois. Et de rénover complètement la centrale. Donc ça veut dire que pendant 10 mois, on n'a pas produit. Et l'eau a été transitée ou par le déversoir, donc l'eau passée par-dessus, ou alors par le conduit qui permettait de restituer et de maintenir les écoulements hydrauliques de la rivière.
Ça, c'est pas un groupe, non, du coup ?
Ça, c'est pas un groupe. C'est pas un groupe de production.
Ça, c'est un conduit qui permet de transiter l'eau. C'est un conduit qui est directement piqué dans la retenue, hein, équipé d'une vanne que l'on va réguler pour maintenir les débits entrants et pour réguler et maintenir le niveau. Ce qu'on a réussi à faire pendant le chantier, c'est qu'on a réussi à maintenir un niveau constant et stable, notamment pendant la période estivale, pour que les collectivités puissent toujours utiliser la retenue, notamment en termes de développement économique, c'est-à-dire plage, baignade, ski nautique, pêche. Il n'y a pas eu d'impact sur la vie locale et économique, notamment pendant notre période de travaux.
Donc voilà, donc là vous voyez, là, je dirais, les derniers éléments de chantier qui vont être de refermer tous les accès à la conduite intérieure, de refaire les branchements électriques, donc les branchements de puissance, et certains branchements, je dirais, de commande ou de surveillance ou de protection qui vont être liés à toute la machine. Et on verra tout à l'heure dans la salle de commande, qui est en bout de coursive, où toutes ces informations remontent.
Alors j'imagine que ça n'a pas été rénové ici. Ça a été rénové où et comment vous faites pour déplacer le groupement? Vous le déplacez tel quel ou vous le démontez pièce par pièce?
Alors non, ça c'est des machines, c'est ce qu'on appelle des groupes bulbes. On arrive à les déconnecter de part et d'autre et on prend la machine entière. Entière, donc la partie turbine et la partie alternateur, qui forment un ensemble, un gros cylindre. Et en fait, on le sort de cet alvéole grâce au pont roulant que vous avez juste au-dessus de vous. Le crochet là, descend. On attrape avec un système d'élingage l'ensemble de la machine. On la remonte et on la prend ici dans cette coursive avec un poids lourd, une remorque. Et ces groupes donc sont rénovés par notre équipe de mécaniciens qui sont basés à Ambazac. Ambazac, donc juste au-dessus de Limoges, il y a un gros atelier de mécanique où ces groupes, une fois qu'ils arrivent entiers dans cet atelier, sont ensuite désossés à l'atelier, démontés et rénovés pièce par pièce. Soit les pièces sont rénovées, c'est-à-dire qu'elles sont sablées, nettoyées, repeintes, soit elles sont changées si c'est des pièces d'usure, par du matériel neuf. Ces groupes sont remontés en Ambazac et ils reviennent ici sur leur plateau de semi-remorque. On les redescend, on les reconnecte et ça redémarre.
Vous expliquez que c'est la pression et non pas le débit qui produit de l'électricité. Vous pourrez peut-être préciser, pour ce que je vois, j'ai l'impression que l'eau elle arrive directement du fond du barrage, enfin du fond de la retenue au plus bas. Comment vous faites pour que la pression soit forte pour produire de l'électricité?
Deux choses. Déjà, un petit cours de physique. Pour faire tourner une turbine, il faut effectivement les deux choses. Il faut de la pression et du débit. Et c'est la multiplication de ces deux paramètres physiques qui va faire la puissance de la machine. Donc on peut avoir des endroits où on a beaucoup de débit, mais peu de pression. Ou le contraire, plutôt dans les montagnes, dans les Alpes, où on a assez peu de débit, des petites rivières, mais une très forte pression qui est liée à la hauteur d'eau. Sur ces machines ici, on a une pression d'eau égale à la dizaine de mètres de la hauteur du lac. Donc effectivement, l'eau dans la machine, elle rentre au pied du barrage. Mais là, on ne voit pas la hauteur d'eau, une dizaine de mètres environ, parce que le barrage fait 15 mètres d'eau. Va créer cette pression de 10 mètres. 10 mètres, c'est en fait un bar de pression, plus la pression atmosphérique. On va avoir environ 2 bars de pression au niveau des turbines, plus le débit. Alors je prends mes petites notes. On a ici un débit environ de, je ne l'ai pas pris là, bon, je vous dirai tout à l'heure, ça doit être une dizaine de mètres cubes par seconde qui passe dans la turbine, l'ordre de grandeur. Et donc, ce qui fait la puissance de la machine, c'est ces 10 mètres cubes par seconde avec ces deux barres de pression absolue qui vont créer la puissance de la machine, qui vont mettre en rotation les hélices de la turbine et l'arbre de transmission va faire tourner l'alternateur. Comme une dynamo de vélo. Alors je sais que maintenant les vélos, ils n'ont plus le dynamo, ils ont des piles. Pour ceux qui connaissent, la dynamo de vélo, c'est exactement ça, en un peu plus gros. Vous avez en bas une dynamo, sauf que là, ce n'est pas la roue qui fait tourner la petite roulette, c'est cette énergie de l'eau, la force motrice de l'eau, qui fait tourner les hélices, et ensuite l'alternateur. L'alternateur transforme donc cette énergie tournante en électricité, et ça part par les trois petits câbles qu'on voit là.
C'est 7,5 mètres cubes par seconde.
J'étais un peu optimiste avec les 10 mètres cubes par seconde qui était l'ordre de grandeur.
Vous avez parlé de rénover les groupes. L'arrivée d'eau se trouve au fond de la retenue d'eau. Le fond du lac, je l'imagine vaseux. Comment vous faites pour que les conduites restent propres et ne soient pas bouchées au fur et à mesure par de la vase ou par des cailloux ou par je ne sais quoi d'autre?
Déjà, pour réaliser nos travaux, il a fallu réaliser des travaux subaquatiques. Donc, il y a des plongeurs qui ont installé en bouchon, donc un bâtardage, pour pouvoir travailler à sec sur tout le conduit et rénover toute la peinture. Sur ces retenues, et comme sur toutes les retenues, on connaît l'état d'envasement de nos retenues, puisqu'en fait, il est suivi. On a un plan de surveillance de l'envasement de nos retenues. Et on sait que ces retenues-là ne sont très faiblement envasées. On n'a pas de colmatage ou d'obstruction, notamment liée à des sédiments. Donc effectivement, il y a parfois quelques arbres, mais ces arbres ne bougent pas les conduits.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne prend pas l'eau exactement au fond. On la prend un petit peu au-dessus du fond. Et l'eau, on la prend à travers un système de filtration et de grille. Donc, suivant l'envasement ou l'aspect sédimentaire ou l'aspect en bac, c'est-à-dire des troncs, des arbres, des feuilles, le système de filtration peut être différent et donc adapté à la situation.
Mais quelle est la différence ? Je reviens à votre intervention de tout à l'heure.
Oui.
Quelle est la différence entre cette turbine-là et le système qui est mis à Vassivière ?
Il n'y a pas de différence technologiquement. Donc, autant à Vassivière, à l'usine de Peyralle-Château qu'ici à Bujaleuf, on a le même système. On a la force motrice de l'eau qui est la combinaison de la pression et du débit. Ça fait tourner une turbine. La différence vient de la taille des machines.
Oui, mais à Vassivière, il y a une conduite d'amenée assez impressionnante quand même.
Oui, alors ça c'est quand on a des barrages où le barrage est dissocié des machines. Et entre le barrage et les machines, il faut amener l'eau à travers des conduites forçantes. Et comme ici on a un ensemble barrage-usine, où l'usine est dans le barrage, la conduite forcée, on en a une quand même, vous la voyez là, elle est horizontale, elle est beaucoup plus courte. Mais il y a toujours une jonction, il y a toujours un tuyau entre le barrage et la machine. Mais ce tuyau, il est ou gros ou petit, et il fait une très grande longueur ou pas. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire aussi que sur ce tuyau, il y a toujours des vannes pour pouvoir intervenir sur les machines et fermer l'eau. Il y a toujours un robinet qui permet d'arrêter l'eau. On la voit, elle est un peu plus basse, elle est sous nous. On ne va pas se pencher, on la verra tout à l'heure, je vous la montrerai tout à l'heure.
On va se retrouver en dessous du niveau de l'eau et de l'amont, évidemment, mais aussi de l'aval. Bon, voilà. Donc, vous avez le groupe de production qui est ici, là, donc qui est au centre. Juste un petit peu en amont, vous avez ce qu'on appelle la vanne de pied. C'est une vanne qui s'ouvre ou qui se ferme et qui fait passer le débit dans la génératrice. Et ensuite, l'eau passe et elle s'évacue à l'aval. Aujourd'hui, tout est bouché. C'est pour ça que vous voyez ce bouchon qui est ouvert. Ces groupes-là, ils font partie de l'origine. Ils font partie des années 60. Hein, donc, ils ont uniquement été rénovés. On a rénové la partie électrique. Et on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire en termes de maintenance et de pièces d'usure. Et on les a remis en place. Donc, mis en peinture et prêts à repartir pour de nombreuses années. Voici le premier et ensuite le second groupe qui, eux, par contre, sont tout neufs. Ils n'ont jamais tourné, ils n'ont jamais produit d'électricité. Ce sont des groupes de conception italienne. Ce sont des Italiens qui ont eu le marché européen pour les 13 groupes de production sur les 6 aménagements des barrages de la Molde.
Ça coûte combien un groupe et ça a une durée de vie de combien de temps ?
Ceux qui ont été rénovés juste à côté, ils ont été conçus dans les années 60. Il suffit de les rénover et on est reparti encore pour de nombreuses années. Ceux-ci, j'espère bien qu'ils feront autant, voire plus.
Et le prix ?
Le prix, on est aux alentours de 600 000 euros pièce.
Là, il y a un tout petit tuyau en polystyrène et il y a marqué en rouge, enfin sur fond rouge, en blanc, fuite C7. C'est quoi exactement ?
Donc, on est sur un ouvrage d'art en génie civil et on vient obstruer la rivière. Vous avez sur cet ouvrage forcément des fuites, puisque le barrage, bah, il bouge, il travaille en fonction de la dilatation et de la température extérieure, mais aussi du niveau de l'eau. Forcément, il se rétracte, il se dilate. Donc, chaque barrage a ce qu'on appelle un dispositif d'auscultation. Parmi les dispositifs d'auscultation, vous avez plusieurs dispositifs, notamment les fuites, donc comme celle-ci. Nos techniciens viennent relever régulièrement ces fuites. Elles sont toutes historisées depuis la création du barrage. Et ça nous permet de comparer et de voir les évolutions de cette fuite. Et les effets en fonction de la température, de l'hydrologie, de, et aussi du vieillissement de l'ouvrage, hein, et les effets thermiques liés à l'environnement. Parmi ces dispositifs, donc vous avez les fuites, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des pendules, donc ce sont des fils à plomb. Donc, et tout ça est historisé et relevé régulièrement pour mesurer les mouvements et les déplacements de l'ouvrage et les effets réversibles, notamment liés à la température et les effets saisonniers. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, ce sont des barrages à crête déversante avec des contreforts. Les déplacements sont relativement faibles, notamment parce que c'est des barrages de faible hauteur. Si on peut faire une similitude sur un barrage comme Vassivière, c'est moins de 2 mm de déplacement, notamment, et surtout, c'est des effets réversibles et saisonniers. C'est-à-dire, il se rétracte l'hiver et il a plutôt tendance à se dilater l'été en fonction de la température.
Quand vous parlez d'un millimètre, c'est un millimètre par an, par décennie, par quoi ?
C'est un millimètre de déplacement entre l'été et l'hiver. Puisqu'en fait, on est sur des effets réversibles. Donc, il va se rétracter l'hiver et il va se dilater l'été. La tolérance, elle est du millimètre.
Vous parlez d'effets réversibles. Est-ce qu'il y a des effets irréversibles ?
De toute façon, s'il y avait des effets irréversibles, on ferait les travaux nécessaires pour garantir le meilleur niveau de sûreté. Et dans tous les cas, notamment sur les barrages, comme le barrage de Vassivière, ce sont des barrages qui font plus de 20 mètres de haut et qui sont déjà au niveau réglementaire très surveillés, puisque nous avons des dispositifs d'auscultation, mais aussi des périodicités et des échéances à tenir, notamment sur le barrage de Vassivière. En 2016, nous avons ce qu'on appelle la décennale. Dit autrement, c'est l'étude technique complète du barrage. Nous allons, au mois de septembre-octobre, baisser la retenue, environ moins 5 mètres, pour aller inspecter toutes les parties qui sont dans la zone de marnage, qui sont régulièrement noyées. Et sur la zone qui est tout le temps immergée, nous allons faire passer un robot qui va faire une visite subaquatique pour aller inspecter toute la partie non visitable à l'œil nu. En synthèse, dans la visite, si on peut résumer, on va dire rapidement, les travaux sur cet ouvrage qui se sont réalisés début 2015 et qui vont se terminer en 2016, mais ça va aussi se dérouler sur les 5 autres barrages identiques dans les 5 à 6 années suivantes. En résumé, c'est un investissement un peu moins de 5 millions d'euros. Au total, sur 6 ans, c'est 29 millions d'euros sur les 6 aménagements. Ça représente à peu près une vingtaine d'entreprises prestataires qui ont été mobilisées sur les 10 mois. Nous avons privilégié de faire travailler plutôt les entreprises locales. Évidemment, lorsque c'est des gros marchés, c'est forcément plus compliqué pour les entreprises locales. Mais on a quand même réussi à faire travailler une entreprise du sel et qui a pu décrocher notamment l'aspect serrurerie bardage pour un montant de 700 000 euros. Et sinon, les petites entreprises locales, c'est le BTP, le terrassement, le génie civil, où on a pu contractualiser des marchés aux alentours de 500 000 euros pour des petits prestataires locaux ou très locaux.
Et alors, quand le barrage fonctionnera-t-il à pleine puissance ?
Là, nous sommes sur la fin du chantier. Nous sommes en train de faire des essais, donc des remises sous tension, des contrôles. On vérifie les paramètres. On a espoir de faire les premiers tours de roue des groupes dans le mois d'avril. La mise en exploitation sera certainement fin avril, début mai.